était un pharaon de la 18e dynastie. Il a vécu il y a près de 3500 ans. Certains de ses meubles funéraires ont également été retrouvés dans sa tombe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir.
Radio G. www.radio-g.fr.
Connaissez-vous l'IGEDD ou l'IGED ? L'IGEDD, c'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable. Elle conseille le gouvernement sur la transition écologique et énergétique, l'urbanisme, le logement, les mobilités, l'eau, la biodiversité. Découvrez le rapport annuel 2024 en podcast sur les plateformes ou sur www.igedd.developpement-durable.gouv.fr.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour ?
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la 6e déjà ?
Et oui, et les inscriptions sont ouvertes. Alors chanteurs et chanteuses, c'est moment de tenter votre chance pour participer à Radiovision.
Pour que votre titre original passe en radio, rendez-vous sur radiovision.fr. Vous avez jusqu'au 18 avril. C'est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Infos et inscriptions sur radiovision.fr.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Déjà la fin de semaine, mais c'est incroyable à quel point le temps passe vite, n'est-ce pas Bruno? Le temps qui file à toute allure, hein, les jours s'enchaînent, les semaines aussi, les mois, on est déjà en plein milieu de la saison de Topette. Hein.
Ça commence bien, si c'est que des poncifs comme ça va être sympa pour l'émission.
Le temps que toi non plus tu n'as pas vu passer, hein, du haut de...
On ne se sent pas vieillir, c'est dur.
On ne se sent pas vieillir. Bon, en tout cas, le temps il va filer encore et puis il y a plein de dates à retenir, puisque du coup, on va être du côté de Loire-Authion ce soir dans Topette. On va parler de la journée du 1er mars, bien évidemment, une journée dédiée au Gange dans le cadre de la Biennale dont on avait parlé la fois passée avec les membres de l'équipe de Loire Odyssée. Alors au programme, il est prévu un concert du groupe Mukta, précédé d'un échange avec un des membres qui composent ce groupe, Michel Gouet. Et pour en parler, on va être avec Jacques Barreau, président de l'association La Note Bleue. En deuxième partie d'émission, dans la foulée, on sera avec Alain Starker, président de l'association Ciné Loire-Authion, accompagné de sa vice-présidente, Eliane Rouget. Alors c'est à Cornet, l'association propose tous les mois des séances de cinéma, parfois accompagnées de temps d'échange. Et en l'occurrence, on va parler de la date du 28 février qui arrive très très prochainement, puisqu'il y aura la diffusion du documentaire Les Menteuses. C'est de la réalisatrice Sylvaine Faligan. Et enfin, on va parler de friperie. La friperie, ça te parle, toi Bruno ?
Oui, c'est pour recycler tout ça, un petit peu.
Ouais, la fripe, c'est un truc de Jones, un petit peu quand même. On va être avec Roselyne Coupeau, la directrice de l'Éclat, et Sarah et Annie, qui sont bénévoles à la friperie solidaire, justement, qui est proposée par l'Éclat, qui brille d'éclat dans son tout nouveau local, puisqu'ils ont déménagé tout récemment. On va en parler dans cette émission. Et justement, Bruno, puisque tu as la parole depuis tout à l'heure, l'édito de Bruno autour de 18h30 à peu près, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va entendre?
Pas le moral et je compte sur toi pour me le remonter.
Je compte, tu peux compter sur moi, t'en fais pas Bruno. On va pas compter sur elle pour nous remonter le moral. C'est le spleen de Manon aussi qui va conclure cette émission. Toutes les deux semaines à retrouver dans Topette. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Allez, avant de recevoir nos invités, juste le temps de faire la manipulation. On va faire un petit détour par les légendes imaginaires de l'Anjou. Bruno, est-ce que ça t'intéresse de découvrir la fontaine de Françoise, si on arrive à la découvrir? D'ailleurs, tu peux parler des légendes imaginaires de l'Anjou, puisque c'est toi qui produis ce podcast.
Tout à fait. Donc, c'est fait avec une IA, au niveau de la voix et au niveau de l'histoire aussi. Et donc, ça permet de découvrir des histoires de l'Anjou un petit peu fantasmées par cette IA.
Voilà, l'IA qui est parfois controversée, mais du coup qui est un outil quand même assez formidable. La Fontaine de Françoise qui nous invite du côté de dans la charmante commune de Beaufort en Anjou. On écoute maintenant dans Topette.
Bienvenue dans notre exploration des mythes et légendes de l'Anjou. Nous vous invitons dans la charmante commune de Beaufort en Anjou, nichée au cœur du Val de Loire, où se cache un secret bien gardé depuis des siècles. Dans la rue des Plantagenêts, dans le jardin bien entretenu d'une petite maison, se trouve un puits dont l'histoire fascine les habitants depuis des générations. L'histoire de ce puits remonte à l'époque où la puissante famille des Plantagenêts régnait sur l'Anjou. Beaufort, alors appelé Beaufort-en-Vallée, était une place forte stratégique entre Angers et Saumur. La légende raconte que c'est Foulque V d'Anjou, père de Geoffroy V Plantagenêt, qui fit creuser ce puits en 1120. À cette époque, Beaufort était réputé pour ses sources aux vertus curatives. L'impasse Guérin des Fontaines, située à quelques pas de la rue des Plantagenêts, témoigne encore aujourd'hui de cette richesse hydrologique. Le nom Guérin proviendrait d'un guérisseur local qui utilisait ses eaux pour soigner les malades. La particularité de ce puits ne fut découverte que bien plus tard, au début du XVIe siècle. On raconte qu'en 1517, alors que la région subissait une terrible sécheresse, le puits de la rue des Plantagenêts continuait de fournir une eau fraîche et abondante. Plus étrange encore, certains villageois affirmaient que l'eau puisée à la pleine lune avait des propriétés miraculeuses. Les rumeurs sur les pouvoirs de ce puits se propagèrent rapidement. On disait que boire son eau à minuit, le soir de la Saint-Jean, permettait de voir l'avenir. D'autres prétendaient que s'en asperger lors de l'équinoxe de printemps guérissait toutes les maladies. Ces récits attirèrent l'attention de l'Église. En 1542, l'évêque d'Angers, Gabriel Bovary, envoya des émissaires pour enquêter sur ces phénomènes. Le rapport conservé dans les archives diocésaines fait état de manifestations inexplicables et recommande de placer le puits sous la protection de Notre-Dame. Pendant les guerres de religion qui secouèrent la France dans la seconde moitié du XVIe siècle, Beaufort fut plusieurs fois assiégé. Le puits magique fut oublié dans la tourmente, son histoire transmise uniquement par tradition orale au sein de quelques familles. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec le renouveau de l'intérêt pour le folklore local, que la légende du puits ressurgit. L'écrivain angevin André Sarrazin mentionna brièvement le puits au miracle de Beaufort dans son almanach des légendes d'Anjou publié en 1856. En 1923, lors de travaux de rénovation de la maison, on découvrit l'importance historique du puits. Des fouilles archéologiques menées en 1925 par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaufort-en-Vallée mirent au jour des pièces de monnaie datant du XIIe au XVIe siècle, ainsi qu'une médaille religieuse du XVIIe siècle représentant Notre-Dame des Eaux. Depuis lors, le puits est devenu un petit trésor local, précieusement entretenu par les propriétaires successifs de la maison. Aujourd'hui, c'est Françoise J. qui en est la gardienne. Françoise a hérité de cette maison de ses grands-parents en 1985. Depuis, elle consacre une grande partie de son temps à l'étude et à la préservation de ce patrimoine unique. Elle a constitué une impressionnante collection de documents historiques relatifs au puits et recueille inlassablement les témoignages des habitants. Chaque année, le 24 juin, jour de la Saint-Jean, nous organisons une petite cérémonie autour du puits, explique Françoise. Les gens viennent de tout le département pour boire une gorgée d'eau et faire un vœu. Bien sûr, c'est euro symbolique, mais ça permet de faire vivre notre histoire locale. Si la plupart des habitants de Beaufort-en-Anjou considèrent l'histoire du puits magique comme une charmante légende, certains persistent à croire en ses pouvoirs. Des analyses de l'eau effectuées en 2018 ont révélé une composition minérale particulièrement riche, ce qui pourrait expliquer certains de ses effets miraculeux. Le mystère du puits de la rue des Plantagenêts continue de fasciner. Est-ce simplement le fruit de l'imagination populaire ou y a-t-il une part de vérité dans cette légende séculaire? Quoi qu'il en soit, ce petit coin de Beaufort-en-Anjou reste un témoignage vivant de la riche histoire de l'Anjou et de la façon dont les mythes se construisent et perdurent à travers les âges. Aujourd'hui, le puits et sa légende attirent chaque année de nombreux curieux et passionnés d'histoire locale. Il est devenu un élément important du patrimoine culturel de Beaufort-en-Anjou, rappelant à tous l'importance de préserver et de transmettre les traditions orales qui font la richesse de notre héritage commun. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des mythes et légendes de l'Anjou.
La fontaine de Françoise, une histoire racontée par IA, les légendes imaginaires de l'Anjou, à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. On vous parle toujours de Panique au Plaza, la nouvelle pièce de la compagnie du Pont d'Ardoise et de Ray Cook. Kounet, qui a cours encore à Tiercé et à Vrier les 21, 22 et 23 février. C'est en ce moment. Dépêchez-vous de réserver vos places directement au numéro que je vais citer. Donc prenez un crayon, un papier, 06 22 40 12 83. Sinon, vous allez sur le Facebook de la Compagnie du Pont d'Ardoise. Et maintenant, on accueille nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Vous le savez, une fois par mois, on va du côté de Loire-Roution pour aborder les différentes actualités qui agitent et animent la commune, puisque nous sommes partenaires Radio G et la commune de Loire-Roution. Et ce soir, nous allons parler encore de la Biennale des Grands Fleuves et du Gange, puisque nous sommes avec Jacques Barraud. Bonsoir Jacques. Oh pardon, on t'entend pas. Comment ça se fait? Bonsoir Jacques. C'est bon, nous t'entendons. Tu es président de l'association La Note Bleue, qui a conjointement avec la commune proposé cette journée du 1er mars, du coup, avec la représentation du groupe Mukta, et c'est même précédé du coup d'une discussion avec un des membres, Michel Gouaille. World Jazz influencé par les musiques indiennes, ça promet. Et c'est justement à propos avec cette Biennale des Grands Fleuves sur le Gange. Ça commence à 15h, ça se poursuit à 20h30 du coup, mais pas au même endroit, si c'est à Saint-Mathurin-sur-Loire, les deux fois. On va en parler du coup de cette programmation, de ce groupe aussi, bien évidemment. Mais Jacques, avant toute chose, est-ce qu'on peut parler de la note bleue? Qu'est-ce que c'est cette note bleue du côté de Loire-Roution?
Alors, il faut faire juste un pas de côté de Loire-Roution, puisque la note bleue, elle est sur Mazé-Milan.
Voilà, c'est pas très loin.
C'est pas très loin, c'est le village juste à côté, en 5 minutes, on rejoint Mazé-Milan. Voilà, donc notre association, elle s'est créée... Eh bien, ça fait 10 ans maintenant pour faire une programmation musicale axée sur le jazz dans la commune de Mazé-Milan. Donc, on a démarré il y a 10 ans en proposant un concert sur un seul week-end, tout simplement dans le village, au cœur du village. Ça a eu ce fonctionnement pendant 6 ans. Et puis, est arrivé le Covid, où notre proposition qui avait lieu au mois de juin n'a pas pu se réaliser. Donc... Nous pensions que ça allait être une année blanche, sauf qu'on a profité d'une petite fenêtre au mois de septembre, entre deux confinements, pour reproposer un concert avec notre municipalité. Et là, il y a eu un engouement assez important qui a fait que la municipalité est revenue vers nous pour nous demander d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... consistant, voilà. Et nous avons donc, à partir de 2021, proposé une saison estivale avec 4 concerts, voilà, sur la période d'été, juin, juillet, août, septembre.
Donc sur, là, c'est à Mazé-Milan, du coup.
Mazé-Milan.
Voilà, pour la...
Tout à fait.
Pour la note bleue, du coup. Alors finalement, le confinement, la période Covid a été plutôt profitable, a permis de faire émerger ça.
Complètement. Mais dans ces mêmes années-là, on a voulu, et c'est notre souhait en tant qu'association, d'élargir notre territoire et d'aller faire des propositions en dehors de l'été. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la municipalité et le service culturel de Loire-Roution pour leur faire une proposition en période hivernale. Et nous avons créé une collaboration à partir de 2023 et qui se concrétise depuis 2024 par une programmation d'un concert inclus dans le guide culturel de Loire-Roution.
Et justement, on va en parler de ce concert, ce sera le 1er mars pour l'année 2025. Juste avant quand même, la note bleue, je me pose une question, parce que là, c'est plutôt jazz, bleu, ça me fait penser au blues, l'origine ouais. Du nom.
Alors, Blue Note, forcément, c'est le label de jazz par excellence des années 50-60. Et puis, c'est tout simplement une façon rapide de nous repérer dans le paysage des associations culturelles. La note bleue, c'est le jazz.
Le jazz, et justement, le jazz, il en est question le 1er mars avec la venue du groupe Mukta. Alors, un jazz quand même très influencé par les musiques indiennes, et qu'on s'entende bien, les musiques indiennes d'Inde, non pas d'Amérique, puisque c'est en lien avec la Biennale des Grands Fleuves autour du Gange. Alors, voilà, cet événement, comment il s'est construit? Pourquoi ce groupe? Comment on a réfléchi les choses avec la note bleue?
Alors, quand le service culturel, via Madame Céline Ducoc, est venu... pour la seconde année, nous proposer de participer à leur programmation culturelle, l'idée d'associer notre groupe, notre concert à la biennale qui démarre en fait depuis janvier 2025. L'inauguration a eu lieu très récemment. L'idée de l'Inde étant là, Nous avons rapidement cherché quel pourrait être un groupe, et Mukta s'est imposé tout de suite, hein, parce que Mukta est un groupe qui fait cette proposition de musique indienne et qui a une existence de 25 ans. Et il se trouve exceptionnellement, c'est là la convergence opportune de notre projet avec Loire-Authion, c'est que Mukta se reformait après avoir fait un silence d'une dizaine d'années en 2025 pour fêter leur 25e anniversaire.
Donc c'était tout à propos, et puis c'est pas juste un concert qui sera proposé, puisque il y aura Michel Gouaï, alors je sais pas si je le prononce comme il
tout
faut
fait, c'est bien ça.
Qui proposera une discussion échange. Alors Michel Gouaï est francophone ou il vient
Alors Michel Gouaï est canadien. Voilà, et c'est un spécialiste du sitar, de la musique indienne, des ragas, de la musique indienne sacrée, et qui, effectivement, dans le partenariat qui existe donc avec Loire-Authion, le réseau des médiathèques de Loire-Authion est partie prenante complètement cette année avec notre projet autour du concert de Mukta. Et c'est au sein de la médiathèque Matulu, à Saint-Mathurin, qu'a lieu cette rencontre avec les lecteurs, les auditeurs, tous ceux qui sont intéressés par la musique indienne, de pouvoir échanger avec ce musicien hors pair de sitar qui a joué sur toutes les scènes du monde.
Oui, et puis Mukta, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va l'entendre dans quelques instants, c'est pas rien, hein. Ça a été plusieurs fois nommé dans des grandes compétitions musicales.
Voilà, effectivement, Mukta a eu, dans les années 2000, quand ils se sont créés, autour de ce groupe, un enthousiasme vraiment très important, qui lui a valu d'être nominé sur les Victoires de la musique plusieurs fois. Lors de sa récente reformation, puisque c'est un groupe nantais, deux concerts étaient programmés au Panonica, la grande salle de jazz de Nantes, et les places étant prises d'assaut, il a fallu reprogrammer un troisième concert. Et donc nous, Association Angevine, nous proposons un concert sur Loire-Authion pour pouvoir découvrir la musique de Mukta. Effectivement, ce sont des musiciens assez extraordinaires qui jouent dans plein de formations, comme beaucoup de musiciens de jazz, et qui là auront la possibilité de montrer au public de la région angevine leur savoir-faire.
Eh ben Jacques, ce que je te propose, c'est de découvrir, si vous ne connaissez pas Mukta, c'est on va écouter Ganja Ja. Dance sur le 100.5 FM et on vient tous ensemble juste après.
Ganja Dance. Ganja. Ganja Dance. Ganja.
Sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette, et Mukta qui sera du côté de Loire-Authion à Saint-Mathurin-sur-Loire le 1er mars. On vient d'en parler avec Jacques de La Note Bleue qui organise conjointement avec la programmation culturelle de Loire-Authion, la programmation culturelle même, cette date. On redonnera les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission, bien évidemment, Jacques. En tout cas, vous pouvez déjà vous assurer que c'est au théâtre Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire à 20h30. Voilà, si vous voulez réserver vos billets, on va vous dire comment faire dans quelques instants. Mais avant tout ça, on va rester à Loire-Authion, de la musique au cinéma. On va faire un petit pas de côté puisque nous sommes avec Alain Starker. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Président de l'association Cine-et-Loire-Authion, et tu es venu accompagné de Éliane Rouget, la vice-présidente de cette association. Bonsoir Éliane. Oh, pardon, on t'entend pas. Bonsoir Éliane.
Bonsoir.
On va parler ensemble, du coup, donc c'est à Cornet. On va parler du 28 février, puisque le documentaire Les Menteuses va être projeté. C'est de la réalisatrice Sylvaine Faligan. Et il y aura certainement des temps d'échange et de discussion en lien avec la thématique de ce documentaire. Avec l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels, la VAS. On va parler de tout ça, bien évidemment. Mais avant toute chose, on peut peut-être présenter votre structure, cette association. En quoi elle consiste? J'ai cru comprendre qu'il y avait des rendez-vous réguliers quand même qui étaient proposés sur la commune, Alain.
Oui, donc le Ciné-Loire-Authion existe depuis 2 ans, mais le cinéma à Loire-Authion existe depuis plus de 15 ans, je crois. Puisque en fait, les premières séances ont eu lieu avec les films 35 mm. Hein. Bon, je n'ai pas connu personnellement. L'association en tant que telle a repris le flambeau de... Bon, on ne va pas faire l'histoire, mais... du cinéma sur Cornet. En fait, on présente, nous, 2 films par mois, donc un film tous les 15 jours, le jeudi à 20h30, et nous, en partenariat bon, avec Baladimal, donc, qui fait partie de Famille Rurale, bien sûr, et puis bien évidemment le partenariat avec la commune de Loire-Authion qui met à disposition ses équipes techniques et ses locaux. Nous avons la chance de pouvoir proposer à ressortissants de Loire-Authion, mais pas que, hein, évidemment, tout le monde est le bienvenu, un film ou des films plutôt récents, puisqu'en fait, je crois qu'en moyenne, on arrive à proposer des films qui sont sortis depuis seulement 1 mois, voire des fois 3 semaines, sur les salles angevines.
Voilà, on pourra parler tout à l'heure de l'importance que ça peut être d'avoir des structures comme ça qui ramènent le cinéma en milieu plutôt rural, parce que c'est vrai que les villes sont plutôt bien loties, même si les cinémas sont parfois en difficulté. Quel public est concerné? Mais avant tout ça, on va parler de cette date du 28 février avec le documentaire Les Menteuses. Éliane, je me tourne vers toi pour faire la présentation de la programmation, peut-être. Comment ça va se dérouler?
Alors, la programmation des Menteuses s'est fait un petit peu... pas par hasard, mais parce que Sylvaine Faligan est originaire de Cornet. Donc voilà comment ça s'est fait. Ses parents habitent toujours Loire-Authion. Et ce film documentaire porte, comme son nom l'indique, Les Menteuses, sur un groupe de jeunes qui ont été abusés par leur professeur de théâtre de Besançon. Ce documentaire, il n'est pas pour autant sur... La victimisation des concernés, mais bien sûr, Sylvaine a pris le parti pris de ne pas raconter les violences vécues, mais les protagonistes de manière frontale. Elle a fait le choix de parler de la reconstruction via la création d'une pièce de théâtre. C'est ce que porte ce documentaire. Il émane de l'espoir et de la joie dans ce documentaire, c'est ce qui était important nous aussi, pour nous, de présenter ce documentaire dans ce sens-là. C'était que en cas d'abus, il y a des possibilités de reconstruction, même si ce n'est pas toujours simple, même si les accompagnements sont quelquefois ou souvent difficiles, ou on a du mal quelquefois aussi à savoir où on doit s'adresser, etc. La justice est passée pour elles, les concernant, et ça c'est important aussi de le dire. Donc c'est ce que porte ce documentaire, et on ne souhaitait pas avoir qu'un seul documentaire sans avoir un débat derrière, d'où la présence de l'association AAVS. Et on aura aussi des plaquettes à disposition, plaquettes du planning familial, du centre d'information féminin, de la maison de l'Olympe, enfin, etc. Pour que les gens puissent repartir éventuellement avec une documentation pour avoir des pistes de reconstruction après et d'accompagnement. Voilà, donc il y aura Sylvaine sera là avec... deux de ses protagonistes, deux actrices qui seront présentes lors du débat. Et il y aura forcément la projection du documentaire, il y aura un débat derrière qui sera animé conjointement par Sylvaine, la réalisatrice, et par la AVS, et par nous éventuellement, où on sera peut-être plus porteur de micro, puisqu'elles connaissent mieux que nous le sujet. Voilà.
Une soirée qui, oui, qui résonne avec l'actualité un peu plus dans le sud de la France. C'est vrai que c'est, j'allais dire malheureusement, on en entend trop parler, mais non, justement, c'est important qu'il y ait des soirées comme ça qui viennent aller briser les tabous. On était lundi dernier avec la prévention, le collectif prévention suicide 49, justement, qui abordait aussi cette thématique-là, le silence qui doit être brisé à un moment donné. Alors là, il sera brisé au travers de la projection, mais surtout, comme tu le dis, Eliane, des échanges qui auront lieu au cours après. Alain, c'est une configuration, un format assez récurrent, hein, du coup, dans les propositions de l'association d'avoir des échanges comme ça par la suite de films?
Je dirais que là, en fait, c'est une première pour nous. En tant qu'organisateur, oui, Ciné-Loire-Roussillon, c'est la première fois que l'on fait ce genre de ciné-débat. Il y en a eu d'autres, hein, mais pas notre initiative. Nous, comme disait Eliane, effectivement, ça nous a paru très important de faire ça, et comme tu le dis, on entend malheureusement trop parler de ça dans les médias, mais justement ce qui nous a plu, moi, dans le documentaire, c'est que ça donne de l'espoir. C'est vraiment cela, le documentaire ne fait pas du tout ou très rapidement mention du procès, etc. C'est pas du voyeurisme, il y a strictement rien. Mais justement, à travers cet exemple de reconstruction, il y a plein de messages qui sont envoyés, messages positifs. Et nous, ce que l'on a voulu, et bien évidemment, parce que c'est ça qui nous paraît encore le plus important, c'est que à la suite de ce ciné-débat, les gens qui sont malheureusement concernés de près ou de loin puissent venir chercher et avoir une info, hein, vers qui se tourner, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, une asso, enfin, etc., qui repartent pas, entre guillemets, les mains vides, quoi.
D'un tout petit mot pour élargir un petit peu plus largement, donc, sur les actions de Ciné-Loire-Roussillon, l'importance que c'est de pouvoir avoir des propositions cinématographiques, alors que ce soit des documentaires ou des films plus récents, du divertissement, vis-à-vis du public loirotien. C'est une demande qu'il y a sur le territoire. Il y avait un petit peu un désert cinématographique, Eliane, Alain, sur la commune.
Sur la commune, depuis que il y a uniquement Ciné-Loire-Roussillon qui propose du cinéma sur Loire-Roussillon. Il y a du cinéma sur les communes avoisinantes, sur Beaufort, en Anjou, Bourget, je crois, Jarzé, mais sur notre secteur géographique, après il faut venir ou au Poncé ou sur Angers, sur des grandes salles avec des problèmes de stationnement, de transport pour éventuellement. Que en étant en zone rurale ou près des gens, ça permet à des spectateurs de venir qui n'iraient pas, pour certains qui ne vont pas sur Angers. Donc ça leur permet une sortie éventuellement deux fois par mois de cinéma, et ça, c'est le but aussi de l'association, c'est de d'ouvrir l'accès au cinéma pour le plus grand nombre, et en particulier en milieu rural.
Et avoir une proposition peut-être aussi détachée d'enjeux commerciaux, de favoriser le lien social aussi, les gens se retrouvent au cinéma grâce à vous, Alain.
Oui, enfin, on le souhaite. C'est vrai que, comme le dit Eliane, c'est un moment de partage, de convivialité dans certains cas, de réflexion aussi, puisque à l'issue des séances, des gens se regroupent et on échange avec eux. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que les personnes, enfin nos spectateurs qui viennent au cinéma, parce que c'est la proximité de la salle, et c'est quand même majoritairement des gens qui habitent Cornet, même s'il y en a d'autres évidemment qui viennent d'ailleurs, de Saint-Mathurin et autres. Oui, donc c'est un moment de détente, enfin en tout cas on le souhaite, et puis de réflexion, et puis d'échange.
Comme on fait actuellement, justement, des échanges exactement. Pour. En tout cas, on va pouvoir tout à l'heure donner en fin de partie d'émission les infos pratiques concernant Ciné-Loire-Roussillon, et puis du coup cette soirée précisément du 28. Comment on fait pour réserver nos places? Est-ce qu'on doit payer? Comment on fait si on doit participer, si on veut échanger à l'issue de la projection du documentaire? Eliane et Alain, vous restez avec nous, bien évidemment. On va partir en fripe dans quelques instants, toujours à Loire-Roussillon, bien évidemment. Mais avant toute chose, on fait un petit détour par l'édito de Bruno, qui n'a pas l'air en forme ce soir.
Oyez, oyez, producteur de Radio G, c'est maintenant qu'arrive le plus beau. Dans votre radio, venez vous approcher, c'est le moment de l'édito de Bruno.
Ah, c'est à moi.
Bon, alors Pierre Benoît, je traverse une période qu'on pourrait qualifier de, comment dire, légèrement déprimante. Oh. Les médias me servent la Troisième Guerre mondiale au petit déjeuner comme si c'était des croissants. Vous reprendrez bien une petite invasion avec votre café. On a tous les ingrédients de 1939, mais en version 2.0. Certains experts nous prédisent même le début des hostilités pour la fin de l'année. Super, ça me laisse le temps de finir ma série Netflix. Et comme si ça suffisait pas, la politique française ressemble à un mauvais film où 80% des téléspectateurs s'en foutent royalement, se disant foutu pour foutu, votons pour le pire. Alors lundi dernier, j'étais au fond du trou. Mais même là-bas, miracle de la technologie, ça capte Radio G. Je me suis dit, allez, écoute Topette, ça va te remonter le moral. Ah, FBI, fausse bonne idée. Oui, je sais que tu aimes bien cette expression.
D'un certain temps.
D'abord, il y a eu la chronique de Raphaël. Tu sais, celle où il parle de spectacles tellement underground qu'il faut être spéléologue pour les trouver. Des spectacles qu'on n'ira jamais voir parce que Disney et le canapé, c'est quand même plus confortable que le sortir par moins 2 degrés. Hein, compte sur moi pour sauver la culture. Bref, ça commençait mal, mais je me suis dit que les invités allaient me redonner le sourire. J'imaginais une émission sur le stand-up, l'impro, ou au pire une comédie musicale sur les gilets jaunes. Mais non. Pierre Benoît, tu peux me rappeler le thème des invités de lundi dernier ?
Nous parlions de la prévention suicide.
Voilà, le suicide. Ah ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Merci. Alors, oui, t'as passé quand même un Graal de l'histoire. Ça m'a fait un petit peu plaisir, ça m'a remonté le moral. Ah, heureusement que tu es là, Pierre Benoît. Hein ? Plus pour longtemps ? Tu t'en vas bientôt ? Non, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant ? Bon, tu sais que c'est la fête lundi prochain. Hein ? C'est la Saint-Modeste. Bon voilà, quand on est rendu à parler du saint du jour dans une chronique, c'est qu'on a vraiment plus rien à dire. Tiens, dans quelques lignes, je vais te parler du temps qu'il fait, tu vas voir. Oui, puis tiens, allez, soyons fous. Pourquoi attendre ? Bon, il fait froid hein, cette semaine, hein. Voilà. Tu parles du réchauffement climatique, hein. Voilà, il y a plus de saison, ma pauvre dame. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah une belle fin de chronique, hein. Bon, allez, je vais réécouter l'émission de lundi dernier. Allez, adieu et sans rancune.
C'est la fin de l'édito. Pierre Benoît dit pas trop tôt. Vous pouvez remettre le volume. À bientôt et sans rancune.
Eh ben Bruno, t'en avais marre du théâtre dans Topette, je t'offre de nouveaux sujets, que veux-tu ? Bon, en tout cas, rassure-nous, tu seras bien là dans deux semaines pour un nouvel édito.
Oui, ça ira mieux, ça ira mieux.
Et quand bien même je m'en vais, il y aura Nolwenn ou d'autres personnes à tacler, car souvent c'est un petit peu l'âme de ton édito de Bruno, qu'on retrouve donc dans deux semaines sur le 100.5 FM de Topette. Et on continue, nous, ce soir, du côté de Loire-Authion. Puisque maintenant, nous allons parler de fripes, nous sommes avec Roselyne Coupeau. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir.
De l'éclat. Alors l'éclat, il faudra repréciser ce qu'est l'éclat du côté de Loire-Authion. Tu n'es pas venue seule toi non plus, car tu es accompagnée de Sarah Petitot. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Bénévole du côté de la friperie solidaire du centre social de l'éclat, accompagnée d'Annick Bataille. Bonsoir Annick.
Bonsoir.
Annick également bénévole, alors des bénévoles qui récupèrent des vêtements suite à des dons par exemple. Vous les triez et vous les revendez à prix libre. Bien évidemment pas dans un objectif de profit ni d'objectifs commerciaux, mais de solidarité. C'est indiqué dans le nom, friperie solidaire de l'éclat. Friperie qui est ouverte tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Un succès grandissant, t'on dit, du côté de Loire-Authion, avec des locaux refaits à neuf, du côté de Cornet, qui ont dû s'agrandir certainement. Avant de parler de cette friperie précisément, parlons de l'éclat. Roselyne, qu'est-ce que l'éclat pour la commune de Loire-Authion ?
L'éclat, c'est un centre social agréé par la CAF, donc c'est une structure de proximité qui agit pour et avec les habitants de Loire-Authion. Donc on peut, si on veut préciser les choses de manière très simple, on est une structure d'animation pour tous les habitants de Loire-Authion. On a plusieurs secteurs d'activité qui peuvent répondre aux besoins des uns et des autres, donc un secteur jeunesse et habitants, puisqu'on accueille maintenant les habitants dans des maisons des jeunes et des habitants sur toutes les communes de Loire-Authion, avec une programmation jeunesse spécifique pendant les vacances. Et puis, nous avons aussi un pôle des transitions écologiques où on rassemble là-dedans un lieu de bricolage à Cornet, justement, un lieu de bricolage augmenté des machines numériques. Juste à côté, nous avons un cybercentre pour lutter contre la fracture numérique. On accueille essentiellement les seniors, mais nous avons aussi un conseiller numérique qui passe de commune en commune pour aider individuellement aussi les personnes qui en ont besoin. On s'est d'ailleurs associé avec la collectivité sur la mise en place d'un réseau local d'inclusion numérique qui permettrait d'avoir une veille sur le territoire et d'aller vraiment à la rencontre des gens qui sont les plus éloignés du numérique. Nous avons aussi au sein du centre social un espace famille qui est implanté à Brun. Vous l'avez compris, l'éclat, c'est éclaté. Donc c'est très diffus sur Loire-Authion, mais en même temps, on est dans chacune des communes à proximité des habitants. Et puis donc dans ce pôle, je parlais du pôle des transitions, donc transition autour du bricolage, du savoir-faire, des machines numériques, et puis de l'usage du numérique, mais nous avons aussi un jardin à la Boal, un jardin expérimental de lien social autour de la permaculture, mais c'est un lieu intergénérationnel où on apprend les bonnes pratiques et où on fait attention à la gestion de l'eau, au sol vivant, voilà. Et puis aussi, nous sommes labellisés guide asso, donc un soutien, nous apportons un soutien à la vie associative locale. Voilà.
Eh ben, c'est très complet, Roselyne. Merci pour cette présentation de l'éclat qu'on précise quand même. C'est AICLA pour l'acronyme très précisément. Ça signifie donc, tu disais.
Association d'animation et d'initiative citoyenne Loire-Authion. Et juste pour préciser, puisque je suis avec les bénévoles de la friperie se situe dans ce grand pôle des transitions éco.
Oui, finalement, tu as tout présenté, sauf la friperie.
Bah
et
oui,
ça
voilà.
Tombe bien, puisqu'on va pouvoir en laisser pour Annick et Sarah, qui sont toutes deux bénévoles pour la friperie solidaire de l'éclat. Alors, dans les grandes lignes, même si, imaginons quelqu'un qui, comme Bruno, sait pas vraiment exactement ce qu'est une friperie. Comment on pourrait lui présenter simplement les choses, Sarah, qui me regarde? La friperie solidaire de l'éclat.
Alors, moi, je vais commencer par l'historique. Ça a démarré il y a 5 ans. Sur le projet d'une petite jeune fille qui est venue nous trouver pour nous demander un coup de main. Elle devait créer un projet pour passer ses examens d'assistante sociale et elle est venue nous chercher. Donc moi je suis celle qui reste depuis le début. Depuis se sont greffées beaucoup de personnes. Voilà, ça a démarré comme ça. Donc à la base il ne devait y en avoir qu'une.
Il y a déjà une histoire humaine à la base de tout ça.
Il devait n'y en avoir qu'une. On a récolté tellement de vêtements que finalement il y en a eu 2 sur 2020, pendant le Covid. Pas toujours simple, mais ça s'est fait. Et puis il y a eu un petit temps de battement, et puis on nous a recontacté, enfin un salarié de l'éclat nous a recontacté pour nous demander ce qu'on faisait des vêtements qui restaient. Et on est reparti sur le projet de mettre cette friperie en route définitivement, enfin j'espère, et qui fonctionne depuis. Le deuxième samedi de chaque mois depuis 2021.
Donc ça veut dire, Annie, que toi, tu es chaque deuxième samedi de chaque mois à la friperie, mais ça c'est pour la dimension vente, ouverture, mais il doit y avoir d'autres actions en parallèle. Il faut trier, coordonner, laver les vêtements, il faut faire tout ça.
Le vendredi après-midi, on est bénévole pendant 4 heures pour déjà préparer, etc., mettre sur cintre, voilà. Et puis le lendemain, ben il y a l'installation et voilà, tout se fait comme ça et tout le monde est content. C'est vraiment, enfin pour moi c'est, tout le monde y trouve son compte en fin de compte. Voilà.
C'est du circuit très court oui. Et social du coup. Qui sont les personnes qui donnent sur la commune? Comment on essaie de communiquer entre guillemets pour récupérer? Même si j'ai l'impression qu'il y a pas besoin de trop le faire. Hein, il y a ce qu'il faut.
Ça se fait tout seul. Les gens viennent, déposent.
Alors, faut peut-être reprendre un peu, l'histoire parce que Sarah parlait du Covid. C'était pas simple à cette époque-là de mettre en place une friperie. Donc, on a commencé une collecte itinérante à partir d'une caravane. Et donc, une caravane éclatante aussi, jaune, très très jaune. Et donc, on était assez visible et repérable sur le territoire. C'était à une période où il était compliqué d'aller sur les points de collecte à Angers. Donc, on a récupéré énormément de vêtements et cette caravane a été très très bien identifiée comme un lieu de collecte, vraiment. Et donc, quand on a lancé la première, puis la deuxième friperie, et puis que la question de la suite s'est posée, eh bien, finalement, les gens ont assez bien repéré et le bouche à oreille fonctionne vraiment très bien.
Oui, c'est souvent le plus efficace. Là, c'est le côté du côté des personnes qui donnent, les personnes qui consomment entre guillemets à la friperie. Ce sont des personnes locales, ce sont des jeunes, ce sont des personnes peut-être un peu plus défavorisées,
de tout âge.
Ah, oui. Elles font que acheter ou il y a une petite plus-value aussi, l'échange avec les bénévoles sur place justement.
Alors moi, Sarah, je tiens à rappeler que ce n'est pas de l'achat, c'est un don libre. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, alors elles peuvent amener des vêtements et repartir avec d'autres. Chacun fait comme il l'entend. Enfin,
il peut y avoir du troc ou alors on peut donner ce qu'on veut.
C'est ça. Du troc ou les deux. Dès quelques fois, les gens amènent, repartent et nous donnent un petit quelque chose avant de partir. Il n'y a pas de règle, en fait. À la base, c'était la première édition de la friperie. Était principalement réservé, je ne sais pas si on peut dire réservé, aux personnes du CCAS.
Oui, la banque alimentaire.
Voilà. Oui. Ouais, mais pas que, vraiment les personnes en difficulté. Voilà. Les autres ont été ouvertes à tout le monde, à tout public.
Donc, c'est important de nuancer par rapport à des friperies plus conventionnelles qu'on imagine en centre-ville où ce sont des jeunes qui vont là-bas, issus d'un milieu social peut-être plus favorisé aussi. Là, on reste quand même sur cette dimension très solidaire avec le système de dons, de troc aussi, si on veut, Sarah.
Oui, c'est ça. Et oui, c'est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment du bébé naissant jusqu'à des vêtements pour tout le monde, adultes.
On est au cœur de l'économie circulaire, Roselyne.
Oui, c'est ça, 100% circuit court, puisque les donateurs sont loirotiens et les bénéficiaires sont loirotiens aussi. Mais je précise que c'est vraiment ouvert à toute la population, qu'il n'y a aucune condition d'accès à cette friperie et que ça répond à des besoins qui sont différents. Il y a vraiment des gens qui ont une nécessité de se vêtir gratuitement pratiquement, mais il y a aussi toute une partie de la population qui, dans l'idée de l'anti-gaspi, de la seconde main, trouve ici tout le choix possible entre les vêtements du petit enfant jusqu'aux vêtements seniors. On peut peut-être faire une petite annonce. Il nous manque des vêtements hommes et oui, de jeunes hommes. Donc, si vous avez ça dans vos placards.
C'est un vrai constat parce qu'on avait reçu les boîtes solidaires de Noël au moment de Noël et c'est aussi les jeunes hommes souvent sont oubliés. On manque de ressources. Annick le confirme. Pour les infos pratiques, Annick, puisque tu viens de parler, donc tous les deuxièmes samedis du mois, si on peut être bénévole aussi, j'imagine. Comment ça marche?
Oui, on peut. Tout le monde peut être bénévole. Donc, il faut s'adresser à l'éclat, je pense. Voilà.
Alors, on a un animateur, ou même un peu plus maintenant, Johan, l'animateur du Brico, accompagne ce projet depuis le début, puisque c'était l'animateur des maisons des habitants. Et donc, oui, c'est par lui qu'il faut passer. Et je tenais aussi à dire juste avant que de finir ce petite émission, qu'on est dans de nouveaux locaux, tu l'as précisé tout à l'heure, ça a vraiment changé la vie de toute l'équipe, la quinzaine de bénévoles de la friperie. Et c'est beaucoup plus attractif pour le public, puisqu'on est dans un lieu, on va dire un magasin qui n'en est pas un, mais éphémère, qu'on installe tous les samedis dans le hall d'une ancienne école qui est donc maintenant attribuée à des locaux associatifs.
À Cornet, oui.
À Cornet, voilà. Et grâce à la commune qui a engagé des travaux et qui a soutenu ce projet, on peut accueillir maintenant de manière très chaleureuse les gens qui passent, puisqu'on offre à chaque fois le café, le sourire, la bienveillance. Voilà.
Et ça, c'est la plus-value, bien évidemment. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Annick, d'être venue nous parler un petit peu de la friperie et puis un petit peu aussi de l'ensemble des actions proposées par l'Éclat. Roselyne, bien évidemment, au cours des différentes émissions avec Laurent Aution, on aura l'occasion de parler des autres actions. Il y avait Venceslas qui était venu, je m'en souviens, la dernière fois. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir dans Topette. Vous pouvez cliquer dans le lien du podcast pour découvrir un petit peu plus de la friperie et de l'Éclat au sens large. Si on reprend dans l'ordre chronologique, du coup, on était avec Jacques en début d'émission. Jacques, toujours avec nous, la note bleue le 1er mars, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les infos pratiques, notamment les billets.
Les billets, la billetterie est en ligne avec la commune de Loire-Authion, donc la réservation se fait auprès de Loire-Authion. Ce que l'on peut rajouter dans mon propos de tout à l'heure, c'est que sur la présentation du billet du concert du 1er mars, vous pourrez accéder dans la journée à l'exposition de façon gratuite.
À l'Eurodyssée sur la Biennale,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est ça, la Biennale sur le Gange, excusez-moi, et que vous pourrez donc découvrir cette magnifique exposition et les photos aussi d'une personne qui a traversé l'Inde.
Et ben voilà de quoi nous motiver du coup. Merci beaucoup Jacques Barrault, président de l'association La Note Bleue, qui est à l'origine de cette proposition du 1er mars avec Mukta, du coup le groupe qu'on a entendu tout à l'heure. On était aussi avec Ciné, Loire-Authion, avec Alain et Eline. Pardon, j'ai perdu ton prénom.
Eliane,
voilà, si tu veux bien reprendre le micro s'il te plaît. Eliane, vice-présidente de l'association Ciné, Loire-Authion et Alain. Concernant la date du 28, très précisément, les infos pratiques. Eliane, du coup, comment ça marche?
Comment ça marche? Alors, vous pouvez réserver par Hello Asso. Hello Asso, les menteuses cornées, c'est bon, vous y arriverez. Vous pouvez réserver. Donc c'est payant, c'est 5 euros pour c'est 5 euros pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Il y aura quelques places qui seront encore disponibles à la vente sur place le 28 février au soir. Nous y serons dès 19h15 pour un spectacle qui va débuter à 20h. Un spectacle cinéma à 20h, pardon. Mais bon, c'est bien de réserver, comme ça, vous êtes sûr d'avoir des places. Ce serait dommage d'arriver sur place à Cornet et de vous retrouver avec une séance complète, un ciné-débat complet et de ne pas pouvoir participer.
Eh ben voilà, merci beaucoup Eliane. Ciné Loire-Authion, pour en reparler. Alain, tu seras bien... Eliane, vous serez toujours les bienvenus dans Topette. Topette, on se quitte ce soir, voilà, bon week-end, on se retrouve lundi prochain à 18h et on se quitte en poésie avec le spleen de Manon. Prenez soin de vous, à lundi et Topette.
Bonjour les amoureux, les amoureuses, les célibataires, les polyamoureux, les cœurs brisés, les solitaires, les mariés, les paxés, les divorcés, les séparés, les abstinents, les romantiques. Bonjour à tous et à toutes, c'est le mois de février et c'est le mois de l'amour. De l'amour sous toutes ses formes. L'amour transi, l'amour passionnel, l'amour tranquille, l'amour filial. Qui que vous aimiez, c'est le moment ou jamais de lui dire. Si vous avez un crush et que vous attendiez un signe pour vous lancer, voilà le signe. Lancez-vous. Les vitrines sont rouges et roses, les boîtes sont en forme de cœur. Dans le cœur des amoureux, comme une effusion de bonheur. Dans celui des solitaires, une infusion de pleurs. Mais rassurez-vous, car l'amour peut se trouver partout, à toute heure. Dans le sourire d'un passant, dans les ronronnements d'un chat, dans la chaleur d'un film et d'un bon chocolat, dans une soirée entre amis, dans la musique, dans les rires, dans la nuit. Cet amour que vous pensez manquer, il est en vous. Il est là. C'est simple, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement se lancer. Écrire un roman, un poème, ou laisser un cœur sur un bout de papier. Le dire en face, par SMS, ou dans une lettre enflammée. Le dire dans une autre langue, le dire à voix basse, le crier. L'important, c'est de le dire, et surtout de le penser. Alors n'attendez plus la Saint-Valentin pour lui prendre la main. L'amour se vit maintenant, sans hésiter, sans compromis. Allez, aujourd'hui et les autres jours aussi, on aime et on le dit.
Savourez nos différences.